Outre les erreurs qu'il faut bien reconnaître dans les supputations de l'épître de la généalogie, celles de Néhémias comme celles d'Esdras, il s'en rencontre encore plusieurs autres dans les noms mêmes des familles, dans les généalogies, dans les histoires, et aussi, je le crains fort, dans les prophéties. Du moins, je ne vois pas que celle de Jérémie, au chapitre 22, touchant Jéconias, et surtout les paroles du dernier verset de ce chapitre, et aucun rapport avec l'histoire de Jéconias, telle qu'on la trouve sur la fin du livre 2 des Rois, dans Jérémie, et au livre 1 des Paralipomènes, chapitre 3, verset 17, 18, 19. Je ne vois pas non plus comment Jérémie peut dire de Tzidekias, à qui on avait crevé les yeux après avoir égorgé ses fils en sa présence, « Tu mourras en paix ». Voyez Jérémie, chapitre 34, verset 5. Que s'il était permis d'interpréter les prophètes d'après l'événement, il faudrait ici, à ce qu'il semble, changer les noms, mettre Jéconias à la place de Tzidekias, et réciproquement. Mais j'aime mieux dire que ce point reste obscur, surtout quand je considère que, s'il y a ici quelque erreur, on ne peut l'imputer qu'à l'historien et non à l'altération du texte. Je ne pousserai pas plus loin l'examen des livres de la Bible. Outre que je craindrais de fatiguer le lecteur, cette critique a déjà été faite. Ainsi, R. Selomo, frappé des contradictions manifestes qu'on rencontre dans les généalogies dont nous venons de parler, n'a pu se contenir. Voyez ses commentaires sur le chapitre 8 du livre 1 des Paralipomènes. Il avoue qu'Esdras donne les noms des enfants de Benjamin et expose leur généalogie tout autrement que la Genèse, et qu'il indique aussi tout autrement que Josué la plupart des villes des Lévites, ce qui vient sans doute de ce qu'il a eu sous les yeux des originaux différents. Selomo remarque un peu plus bas que la généalogie de Gibéon et de plusieurs autres est donnée de deux manières différentes, parce qu'Esdras ayant eu sous les yeux plusieurs épîtres différentes pour chaque généalogie, s'est réglé dans ses choix sur le nombre des exemplaires, et quand ce nombre était le même pour deux généalogies opposées, il les a données toutes deux. Selomo avoue donc ici sans restriction que les livres dont il parle ont été écrits d'après les originaux d'une correction et d'une authenticité insuffisante. Il est digne de remarque que la plupart du temps, les commentateurs eux-mêmes, en s'efforçant de concilier les passages contradictoires, nous montrent la cause de l'erreur qu'ils ne veulent pas reconnaître. Du reste, je ne crois pas qu'aucun homme d'un jugement sain se puisse persuader que les écrivains sacrés ont écrit des propos délibérés dans un style obscur et inintelligible, tout exprès pour paraître en contradiction avec eux-mêmes en divers endroits. On dira peut-être que ma méthode conduit au renversement complet de l'écriture parce qu'elle donne à chacun le droit de considérer comme suspect tel passage qui lui plaira. Mais j'ai prouvé au contraire que cette méthode préserve l'écriture de toute atteinte en empêchant qu'on en accommode les passages clairs à ceux qui sont obscurs et qu'on en corrompe les parties saintes au moyen des parties altérées. D'ailleurs, je me demande, de ce qu'un livre a les endroits corrompus, est-ce une raison pour regarder tout le reste comme suspect? S'est-il jamais rencontré un livre qui fut entièrement exempt de fautes? Dira-t-on pour cela que tous les livres en sont pleins? Personne assurément ne tombera dans cet excès, surtout quand on aura affaire à un discours clairement conçu et que la pensée de l'auteur s'y fera aisément reconnaître. Voilà ce que j'avais à dire touchant l'histoire des livres de l'Ancien Testament. Il est aisé, je crois, d'en conclure qu'avant le temps des Maccabées, il n'y a point eu de canon des livres saints. Ce sont les pharisiens de l'époque du Second Temple, les mêmes qui instituèrent les formulaires de prière. Ce sont eux, dis-je, qui de leur autorité privée, on choisit entre beaucoup d'autres et consacrer les livres que nous possédons maintenant. Par conséquent, pour démontrer l'autorité de l'écriture, il est nécessaire de prouver celle de chaque livre saint en particulier. Et ce n'est évidemment pas assez d'établir la divinité d'un de ces livres pour en inférer la divinité de tous les autres, puisqu'il faudrait supposer pour cela que l'assemblée des pharisiens n'a pu se tromper dans son choix, ce qu'il est impossible de démontrer. Que si on me demande par quelle raison j'admets que les seuls pharisiens ont formé le canon des livres de l'écriture, je citerai le dernier chapitre de Daniel, verset 2, où il prédit la résurrection des morts qui a été niée par les Sadducéens. J'ajoute que les pharisiens dans le Talmud s'expliquent ouvertement sur ce point. Il est dit en effet au traité du sabbat, chapitre 2, feuille 30, R. Jehuda, surnommé Rabbi, rapporte que les docteurs ont voulu cacher le livre de l'Ecclésiaste parce qu'on y trouve des paroles opposées à celles de la loi, c'est-à-dire au livre de la loi de Moïse. Pourquoi ne l'ont-ils pas caché ? C'est qu'ils commencent suivant la loi et finissent suivant la loi. On lit un peu plus bas, ils ont cherché aussi à cacher le livre des Proverbes. Enfin, au chapitre 20 de ce même traité, feuille 13, 2, il est dit « Certes, nous devons nommer avec reconnaissance Négunja, fils d'Ischias, car sans lui, nous courions risque de perdre le livre d'Ézéchiel, qu'on voulait soustraire au regard, parce qu'il se trouve des paroles contraires à celles de la loi. » Il suit clairement de tous ces passages que les docteurs de la loi tinrent conseil pour décider quels étaient parmi les livres saints, ceux qu'il fallait admettre et ceux qu'il fallait rejeter. Ainsi donc, que celui qui veut être certain de l'autorité de tous les livres de l'Écriture recommence l'examen de chacun d'eux et lui demande compte de ses titres. Ce serait ici le moment d'examiner les livres du Nouveau Testament par la même méthode qui vient d'être appliquée à ceux de l'Ancien. Mais comme j'entends dire que le très savant homme et très profond dans la connaissance des langues ont entrepris ce travail, je renonce à m'y engager. Je ne suis point d'ailleurs assez versé dans la langue grecque pour oser prendre sur moi une tâche si difficile. Outre que les exemplaires des livres du Nouveau Testament qui ont été écrits en hébreu sont aujourd'hui perdus pour nous. Je vais donc me borner à toucher quelques points qui se rapportent à mon sujet, ainsi qu'on le verra dans le chapitre suivant.